France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ils sont venus et n'ont même pas payé l'entrée, malgré l'idée de Stéphane Bern, en entrant dans cette cathédrale radiophonique qui est Radio France. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Alexis Poulain, bonsoir, vous êtes journaliste européen, Caroline Fiat, bonsoir, vous êtes députée de la France Insoumise de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, également Stéphane Vernet, bonsoir, de Ouest-France, et François Dorcival, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
De Valeurs Actuelles, et ce soir on parlera de Macron en visite chez les derniers de cordée, un peu d'Europe et de bac élargi, mais juste avant ça, nous recevons Maître Benoît Chabert, bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, nous allons revenir sur les commémorations du 13 novembre. Aujourd'hui, le président de la République, accompagné de François Hollande et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est recueilli sur les 6 lieux qui ont fait du 13 novembre un jour à part dans l'histoire de notre pays. 130 morts, 683 blessés, autant de chiffres marqués au fer rouge dans notre inconscient toute la journée. Nous avons entendu les témoignages de victimes, cette vie que certains arrivent à reconstruire, que d'autres tentent de refaire et que beaucoup cherchent encore. Mais maintenant, eh bien, on le dit souvent, le terrorisme s'est installé et l'on parle des revenants, ces Français partis combattre aux côtés de Daesh. Alors Benoît Chabert, vous étiez avocat aux côtés des parties civiles dans le procès du frère de Mohamed Merah. On a vu toute l'émotion provoquée par ce procès. Est-ce que ça sera, à votre avis, d'avocat, véritablement possible de juger ces revenants sereinement?
Ça va être très difficile parce que le regard qu'on porte est un regard un peu haineux. Et il faut que la justice abolisse la haine pour pouvoir donner une solution conforme au droit. Et donc à partir de là, le regard des juges n'est pas toujours le regard de la victime. Mmh. Et pour les victimes, c'est assez difficile de se rendre compte que peut-être que la réponse judiciaire n'est pas celle que leur cœur attend. Et c'est toute une pédagogie qui doit être faite pour expliquer que dans un état de droit, peut-être que la réponse n'est pas une réponse à la douleur, mais une réponse au droit.
Mais alors justement, vous connaissez justement certaines victimes du Bataclan. Est-ce que finalement ces gens-là aussi attendent un procès? On parle notamment de Salah Abdeslam, le seul survivant du commando du 13 novembre. On sait qu'il y aura un procès en Belgique le 18 décembre. Pour la France, ça pourrait être en effet au printemps 2019. Est-ce qu'ils attendent ce procès ou pas?
Oui, et là ça va être très particulier parce que là, il y a un auteur. Donc en fait, il y a un auteur qui sera jugé. Et donc d'abord, il faut des explications. Ce qui est très difficile pour une victime, c'est de ne pas entendre d'explications. C'est-à-dire que la personne dise « voilà pourquoi j'ai fait cela ». Et je crains que la réponse soit justement le silence. Et un silence qui va alourdir encore plus, comme si c'était une deuxième fois que les victimes allaient être assassinées. Assassiné par le silence de l'auteur.
Et quand vous dites le silence, parce qu'aujourd'hui, en effet, il se mure dans le silence à Fleury-Mérogis.
Aujourd'hui, il dit rien. Il se mure dans le silence, il ne répond à aucune des questions. Donc c'est une instruction qui a lieu devant un mis en examen qui ne va jamais répondre, donc qui ne veut pas donner de réponse. Et c'est très complexe pour une victime de ne pas savoir, même si on peut créer des hypothèses, on peut s'imaginer, on peut se dire voilà ce qui s'est passé. Mais c'est tellement fort de dire voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je l'ai fait. Et c'est important même pour la France qu'on entende ça. Parce que c'est une parole, normalement, qui doit pouvoir aider à faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais.
Et François Orcival, oui.
Oui, j'avais une question
pour
Maître Chabert. Vous avez assisté au procès Merah, vous étiez avocat précisément donc des parties civiles, et vous avez le sentiment que du côté de Abdelkader Merah, de sa famille, de sa mère, etc., on a compris pourquoi ils avaient fait ça, pourquoi ils avaient assassiné comme ça. Moi, j'ai suivi le procès à travers les comptes rendus. J'ai pas trouvé d'explication.
Je ne sais pas s'il y a une incompréhension ou il y a un désir de ne pas exprimer une compréhension. C'est tout de même deux points très différents. C'est-à-dire que je pense que pour une mère, quelle que soit l'horreur qu'un fils fait, elle ne comprend pas. Bon, mais ensuite, dans cette affaire-là, je crains qu'il y a tout de même une logique fondamentaliste qui a tout de même été à l'initiative de ce que Mohamed Merah a voulu faire.
Alors, il y a aussi, depuis le 13 novembre 2015, c'est aussi l'instauration de l'état d'urgence qui a pris fin le 1er novembre dernier pour être remplacé par une nouvelle loi antiterroriste. Alors, cette loi, elle est très discutée. On en a beaucoup parlé aussi, bien sûr, à l'Assemblée nationale, Caroline Fiat. Mais de nombreux magistrats la critiquent, Benoît Chabert. Est-ce que finalement, vous seriez critique comme ça envers cette nouvelle loi? Et est-ce qu'on fait assez confiance à la justice, finalement?
Très compliqué, c'est un avocat qui parle, ou un citoyen.
Bien sûr.
Et les deux d'ailleurs, c'est vraiment une vraie question des libertés fondamentales. Et le fait, tout de même, en tant qu'avocat, je défends toujours les libertés. Je pense que l'homme est au centre du système judiciaire et qu'on ne peut pas trahir toute l'histoire de la République pour répondre à une émotion. Néanmoins, il faut tout de même protéger. Et donc, la loi qui protège, c'est tout de même assez intéressant et assez efficace.
Oui, Caroline Fiat, vous, justement, sur l'état d'urgence et même sur cette nouvelle loi, vous étiez très critique au groupe des Insoumis.
Oui, parce que voilà, quand j'entends qu'on a quitté l'état d'urgence au 1er novembre, on est rentré dans un état d'urgence permanent. C'est juste la différence. Qu'on se protège et qu'on limite la casse et les actes terroristes, c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on souhaite, mais pas en prenant sur les libertés fondamentales de notre pays et sur, enfin voilà, la présomption d'innocence, c'est quand même quelque chose d'important. Et maintenant, si vous êtes soupçonné, on peut rentrer chez vous en pleine nuit avec tout ce que ça implique. Donc oui, c'est... On attend de voir, mais on a un œil critique.
Oui, François Sivan.
Non, après, mais je veux dire que la présomption d'innocence dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le reste, je vois plus du tout où vous la mettez. Parce que dès lors que quelqu'un est dénoncé, la présomption d'innocence, elle est morte. Elle est morte.
Moi, si demain je veux dénoncer quelqu'un que je n'aime pas en disant j'ai des doutes sur la personne, ben voilà, ils y vont. Hein. Dizaines d'années en arrière.
Faut faire attention sur les dénonciations,
monsieur. Faut pas oublier ce qui s'est passé avec les dénonciations il y a longtemps en arrière. Il faudrait pas y revenir.
Justement, maître Blanchard, juste une dernière chose. Est-ce que la vision qu'on a aujourd'hui de la justice par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre pays, que ce soit le 13 novembre, que ce soit le 7 janvier, que ce soit le 14 juillet à Nice ou d'autres, malheureusement, est-ce qu'elle a changé, d'après vous, la perception de la justice pour les Français?
Pour les Français, je ne sais pas. En tout cas, la justice essaie d'être rigoureuse, malgré tout. Et c'est très important. Mais il faut expliquer aux victimes que cette rigueur n'est pas contre elles. Voilà, ça me paraît très important de leur dire que l'état de droit doit être respecté et que la justice doit être sévère, évidemment, face à l'horreur. Mais une sévérité dans le cadre du droit et non pas dans le cadre de l'émotion.
Merci beaucoup, en tout cas, maître Benoît Chabert, d'être passé ce soir aux informés de France Info. L'info à 20h10, Julie Smul.
Le centre-ville de Lyon paralysé cet après-midi à cause d'une opération de déminage. Une voiture suspecte contenant des bouteilles de gaz signalées à la police dans le 2e arrondissement. Rien de dangereux finalement. Après inspection des forces de l'ordre, le trafic reprend petit à petit. D'abord le Stade de France, puis les terrasses de l'Est parisien et pour finir le Bataclan. Tournée présidentielle aujourd'hui en hommage aux 130 victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis il y a tout juste 2 ans. Emmanuel Macron entouré de François Hollande, d'Anne Hidalgo et de plusieurs ministres. Pas de discours à la demande des familles, mais des minutes de silence et des fleurs déposées sur le sol. Opération séduction banlieue maintenant pour le président Emmanuel Macron à Clichy-sous-Bois cet après-midi avant le Nord, Tourcoing et Roubaix ce soir et demain. Il doit annoncer plusieurs mesures en faveur des habitants des quartiers populaires. La colère des familles de ceux qui sont morts dans le crash d'un Boeing 737 en 2004 au large de l'Égypte. On apprend aujourd'hui que la justice demande un non-lieu dans cette affaire. L'avion s'est écrasé au large de Sharm el-Cheikh 3 minutes après le décollage. 148 personnes sont mortes, dont 134 Français. Et puis la prochaine Coupe du Monde de foot avec ou sans l'Italie? Réponse ce soir, match à 20h45 contre la Suède. Les Italiens doivent absolument gagner avec 2 buts d'écart, sinon ce serait la première Coupe du Monde sans eux depuis près de 60 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est la fin du bac, ouais. Enfin, du bac comme on le connaît aujourd'hui, hein. Oh, oui, enfin voilà, parfois nous pensons aussi au désarroi du cancre, hein. Voilà, le service public s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a lancé donc une large consultation pour réformer le très symbolique examen de fin de lycée. Un rapport sera rendu en février pour une mise en place progressive jusqu'en 2021. L'idée est de redonner du souffle au baccalauréat en axant davantage sur le contrôle continu et seulement 4 épreuves terminales. Est-ce la fin du fameux 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat annoncé par Jean-Pierre Chevènement en 1985? En fait, tout ça est encore flou selon Hervé Jean Le Niger, vice-président de la FCPE.
Nous restons extrêmement vigilants sur la méthode, extrêmement rapide, avec 80 consultations d'ici le mois de décembre. Nous, vraiment, il faut que le gouvernement ne parte pas dans un esprit où il sait déjà ce qu'il voudrait du baccalauréat, qu'il écoute vraiment les gens dans les concertations et qu'il en tienne compte.
Voilà, Hervé Jean, le Niger, vice-président de la FCPE. Alors, Alexis Poulain, est-ce que Jean-Michel Blanquer, lui, il explique qu'avec le bac aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'une époque? Ça veut dire quoi, en fait, finalement, ça?
La fin d'une époque, c'est ce que vous disiez, c'est les 80% d'une classe d'âge au bac, c'est le fait d'avoir un examen qui est irréformable, c'est un rite de passage français, républicain, le bac. C'est on va se scarifier la peau ailleurs, ici, on passe le bac, quoi. Et le changer, c'est extrêmement difficile. Beaucoup de ministres de l'Éducation s'y sont cassés les dents, donc je pense que là, il va aller effectivement dans le temps, on parle de 2021, voir comment progressivement faire ça. Il y a la méthode En Marche, 80 consultations en un mois, on va noyer comme ça les partenaires sociaux sous la consultation, pas le temps de réagir, pas le temps de réfléchir, mais vous avez été consulté, donc à voir ce qui va sortir de ces consultations effectivement. Et puis il y a une réalité, c'est la démographie, c'est les bébés de l'an 2000, on dit maintenant, ils vont être extrêmement nombreux à arriver à l'université.
On l'a fait avec la PB d'ailleurs.
Voilà, la PB qui cafouille complètement, les algorithmes vont prendre le pouvoir petit à petit, on va dire pourquoi faire un examen finalement, on va dire avec un contrôle continue avec à peu près ça, un algorithme va pouvoir vous mettre dans une case, c'est le meilleur des mondes. Hein. On va dire, vous êtes très bien, vous serez boucher, vous serez charpentier, et ça permet aussi de remettre la formation continue sur le devant, ça permet aussi de dégager des filières d'excellence et d'en finir avec le bac, qui finalement n'a plus beaucoup de sens, à part de dire, c'est fini, maintenant vous allez tous à l'université, c'est perdre 4-5 ans, et puis allez, nagez dans le grand bain et démerdez-vous.
Alors Stéphane Vernet, c'est vrai qu'il y a près de 88% des candidats au bac qui l'ont eu cette année, est-ce que c'est encore utile ou ça reste très symbolique dans le côté, en effet, comme l'a dit Alexis Poulain, un rite de passage?
Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'Alexis Poulain a tout dit. C'est très bien résumé. En fait, avec 88% des gens qui ont une classe d'âge qui a le bac aujourd'hui, 80-88%, en fait, c'est plus un diplôme, le bac. Autrefois, c'en était un. Avoir le bac, c'était un niveau. Aujourd'hui, c'est plus un niveau. Avoir le bac, c'est le sésame pour pouvoir entamer des études supérieures. Et cette réforme qui est proposée, alors, encore une fois, la consultation commence. Donc, de deux choses l'une. Soit, effectivement, tout est écrit d'avance et cette consultation, elle sera un prétexte. Ouais. Soit, effectivement, ils vont s'appuyer sur les suggestions des uns et des autres, mais ce dont on peut douter vu le délai imparti et l'enjeu, et puis les annonces qui sont déjà faites, mais on peut imaginer que les quatre matières qui soient retenues et le contrôle continu, en fait c'est un petit peu ce qui s'est passé, vous m'arrêtez si je me trompe, mais avec le brevet des collèges il y a quelques années, c'est le même principe. Donc à l'arrivée, on va dire quoi dans le système d'admission post-bac, APB, voilà, ça va être
APB,
plus simple.
C'est beaucoup plus simple.
Merci. Donc avec ce système qui pose tant de problèmes, on va dire quoi? On va dire à partir du moment où vous avez tel type de notes, vous pouvez prétendre à telle formation ou à telle filière, et quand vous êtes en dessous, vous n'avez pas les prérequis, donc il faudra une formation complémentaire. Moi, je sens que c'est plutôt l'antichambre ou la confirmation d'une politique qui est déjà sur les rails, quoi, qui est déjà convenue.
Caroline Fiat, pour vous, justement, cette méthode, comme le disait Alexis Poulain, on la voit un peu partout, la méthode de concertation, parler, faire 80 réunions, en effet, jusqu'en février, c'est très court, en effet, nous sommes quand même mi-novembre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière d'avancer, justement?
Moi, je trouve toujours très, très compliqué de comprendre la méthode quand on vient de voter le plan de financement pour toute l'année prochaine. C'est-à-dire que si une bonne idée dans la consultation tombe, c'est ballot, mais parce qu'avant 2019, on pourra rien faire. Donc, ça aurait peut-être été plus judicieux de faire les consultations avant de faire le projet de loi de finances. Donc, je pense que oui, c'est pour noyer le poisson et après apporter ce qu'il souhaitait. Après, là, en ce moment, il y a une consultation sur la santé. J'invite tout le monde à aller répondre et à bien dire s'ils sont d'accord ou pas avec l'éventuel projet qui pourrait arriver, mais si des idées sont bonnes, elles ne seront pas mises en place avant 2019.
2019, François Dorcival.
J'aime bien le jugement que porte Jean-Pierre Chevènement, qui dit que Jean-Michel Blanquer est le meilleur ministre de l'Éducation nationale depuis 1986, c'est-à-dire depuis que Jean-Pierre Chevènement n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Or, c'est précisément Jean-Pierre Chevènement qui avait fixé ce fameux objectif de 80% d'une classe d'âge ayant le baccalauréat. Je trouve que ce que vous avez dit tous les deux résume parfaitement le décor, et que ceci s'inscrit dans la logique de la discussion qui a eu lieu sur l'admission dans les universités, effectivement. Alors, pour répondre à madame, je dirais que tout n'est pas une question de budget, je veux dire par là. Mais non, le baccalauréat, qu'il soit en contrôle continu ou qu'il soit en épreuve finale, c'est pas forcément budgétaire. C'est d'abord une question de conception de l'examen. Ensuite, on le fait justement avec un objectif à 2021, c'est-à-dire 4 bonnes années. S'il y a des correctifs à faire en matière budgétaire, on pourra les faire.
Merci. Oui, Caroline Fiat.
Par rapport à l'éducation, excusez-moi, enfin, il y a quand même toujours un apport budgétaire. Tout le monde n'est pas avec les mêmes capacités. Un enseignant qui a 20 élèves dans sa classe, oui, aura plus de capacité à faire apprendre à ses élèves et à ce que ses élèves puissent accéder aux études universitaires et réussir leurs études universitaires, parce que c'est bien ça le principe. C'est pas envoyer les enfants faire des études universitaires pour qu'ils échouent, c'est,
oui,
pour qu'ils réussissent.
Ça, c'est une bonne résolution.
Dans une classe de 30, 35, voire 38
mais
élèves.
Mais ça, c'est déjà à l'étude. C'est déjà
mais
en cours.
Mais il n'y aura pas d'embauche d'enseignants l'année prochaine.
C'est l'autre pendant aussi, c'est le coût des études. En fait, en parallèle de cette réforme du diplôme, il va y avoir aussi les études supérieures qui vont devenir extrêmement chères. Enfin, progressivement de plus en plus chères, avec de la dette étudiante qui va se créer. Ça aussi, c'est au programme. D'arriver à dire, maintenant, l'éducation gratuite, c'est fini, il va falloir payer la faculté. Et la payer parce que si vous faites une année de médecine, c'est pour réussir en médecine, c'est pas pour faire une année de médecine.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sélection dénoncé par certains? C'est sur les dossiers,
c'est-à-dire que les filières d'excellence, on va se retrouver dans un système américain où dès la maternelle, il faudra trouver la maternelle excellente et mettre de côté 100 000 euros.
Franchement, on n'y est pas. Il y a de plus en plus, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Il y a de plus en plus de demandes pour l'enseignement privé. Ça,
évidemment,
oui. Et
ça va pousser davantage.
Il n'y a pas assez de classe, ça c'est vrai.
Et ça va pousser davantage le privé. C'est pour ça que je dis qu'on va vers un modèle libéral où le privé aura plus d'importance que le public.
Pour le moment, vous savez que le nombre de classes obéit à des quotas. Donc on n'ouvre pas de classes dans le privé. Il n'empêche qu'on pourrait.
Stéphane Vernet, pour vous, justement, cette sélection, le fait de supprimer des filières, hein, comme l'a dit le ministre, il n'y aurait plus de filières L, ES ou S, ça veut dire qu'on pourrait choisir chacun finalement son meilleur parcours. Donc après, ça se ferait aussi peut-être sur dossier. Est-ce qu'on va vers davantage de sélection, ce mot, voilà, si détesté par les ministres de l'Éducation?
Moi, je sais pas. Ce mot de sélection, évidemment, c'est un mot qui fait peur parce qu'il n'est pas du tout dans notre culture. Il est très choquant, mais en même temps, il y a une vraie question. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut continuer à laisser un certain nombre d'étudiants s'inscrire dans des filières qui n'ont aucun débouché professionnel? C'est une vraie question. Après, est-ce que la solution envisagée, celle des prérequis, est-ce que c'est la bonne? Moi, je sais pas. Il faut voir ça à l'usage. On a la chance d'avoir quand même des filières d'excellence, une université qui est encore d'un très bon niveau et qui est gratuite ou presque. On paye très très peu de chance pour l'instant pour des études supérieures dans notre pays. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver parce que c'est pas ce que font nos voisins.
Préservons aussi les grandes écoles.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Julie Smul.
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu décalé d'un an, ce sera janvier 2019 au lieu de janvier 2018. Un report confirmé ce matin par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Une minute de silence sur chaque lieu touché le soir des attentats de Paris et de Saint-Denis. 2 ans après les attaques, journée de commémoration, journée d'hommage aux 130 victimes et aux plus de 350 blessés. Le président Macron, mais aussi François Hollande et Anne Hidalgo, réunis devant le Stade de France, les terrasses parisiennes ou encore le Bataclan. 2600 personnes ont déjà été indemnisées par le fonds de solidarité. C'est ce qu'explique ce soir sur France Info Elisabeth Pelzet, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. La ville de Marseille demandait l'annulation du spectacle de Dieudonné prévu à la fin de la semaine, dimanche soir. Demande rejetée aujourd'hui par le Conseil d'État. Il estime qu'annuler ce spectacle constitue une atteinte grave et illégale à la liberté d'expression. Fin de citation. Les rescapés du séisme de magnitude 7,3 en Iran et en Irak, obligés de dormir dehors pour la 2e nuit de suite. Un tremblement de terre qui a fait hier soir au moins 415 morts et des milliers de blessés. Un bilan toujours provisoire ce soir. L'Iran décrète aujourd'hui 3 jours de deuil national. Et puis, relier la France au Brésil par la mer en 7 jours, 22 heures, 7 minutes et 27 secondes. Nouveau record signé Thomas Coville et Jean-Luc Nélias. Ils remportent ce matin la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Salvador de Bahia.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons éducation, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup parlé du bac. Hein. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite réformer, ça va consulter à gogo jusqu'en février prochain, voilà tout simplement. Et, mais il a dit aussi d'autres choses, puisqu'il était interrogé par les lecteurs du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Il a parlé d'une chose qui a une terrible résonance par rapport à l'actualité aujourd'hui. Nous sommes le 13 novembre, 2 ans après les attentats du Bataclan, du Stade de France et des terrasses à Paris. Il a parlé de la création d'unités laïcité pour venir en aide aux enseignants qui pourraient être débordés. Alexis Poulain, est-ce que c'est utile ça? Parce que on a l'impression qu'on est toujours avec cette laïcité dans le symbole. On se souvient de Najat Vaubel-Kassem qui disait on va rendre l'instruction civique véritablement obligatoire. Là, Jean-Michel Blanquer, d'unité laïcité.
On avait, après le Bataclan, proposé les volontaires justement pour venir parler du vivre ensemble de la République. Beaucoup de gens avaient voulu se joindre à cette initiative. Il s'est rien passé. Ça a été un couac sans nom. Des unités laïcité, c'est un nom déjà, dire ça à des gamins dans une école, je sais pas, ils vont regarder avec des yeux comme ça, ils vont dire qui va être emmené au camp de rééducation laïque. Il y a quelque chose. La laïcité, c'est le fondement de la République. C'est un des fondements de la République. C'est extrêmement important qu'elle soit enseignée à l'école, mais elle doit l'être dans tous les programmes, à petite dose, simplement en montrant ce que c'est, en expliquant que c'est la meilleure façon de vivre ensemble parce que c'est le respect de toutes les religions, le respect de toutes les différences. C'est simple, c'est des mots simples. On n'a pas besoin d'unités de laïcité qui vont venir dans les écoles débarquer pour expliquer ce que c'est.
Oui. Alors, Caroline Fiat, juste une chose quand même. Est-ce que pour vous, on a trouvé justement ce moyen à l'école de parler de laïcité? On nous voit depuis justement les attentats contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, ce mot est revenu. Hein, on l'avait un peu mis de côté, ce mot est revenu. Est-ce que pour vous, on a trouvé finalement ce moyen d'en parler?
C'est toujours compliqué parce qu'on parle quand même, l'école commence à 3 ans, même si c'est pas obligatoire. Donc mettre des mots sur la laïcité, c'est quand même très compliqué pour les enfants et même chez les adolescents. Après, moi je pense que le plus important, c'est le apprendre à vivre ensemble et apprendre à ne pas juger les autres. Le respect de l'autre. Et donc c'est ce qui est prévu.
Là en fait, l'unité laïcité répondait en fait Jean-Michel Blanquer, c'était pour aider les enseignants qui parfois peuvent être confrontés à des élèves qui vont dire, aujourd'hui par exemple la Terre ne tourne pas autour du soleil. Vous voyez, par exemple, ce sont des théories, en effet, religieuses. Donc, que répondre, vous voyez, dans ces cas-là? Alors, est-ce que ça peut être utile?
C'est pas les UFM, c'est pas les formations des professeurs qui leur permettent d'avoir les outils pour répondre à ce genre d'élèves?
Ah bah, c'est, je ne sais pas, après, vous savez, face à une classe, c'est très difficile.
Mais il a évoqué ça aussi dans... Je trouve, de vous à moi, cet exemple que des professeurs de sciences de SVT soient aujourd'hui mis en difficulté par des élèves qui soutiennent la Terre tourne autour du Soleil en 2018, enfin 2017, je trouve ça que oui, enfin
ne tourne pas,
j'en perds mon latin,
Stéphane Vernet.
C'est l'inverse. Vous m'aurez compris.
C'est un exemple parmi d'autres, mais on sait aujourd'hui il y a des cas. L'éducation nationale remonte les cas qui viennent là, que ça soit ça, que ça soit d'autres choses sur la religion, sur l'histoire.
Je pense que c'est symptomatique d'une situation de notre pays qui est assez effrayante. Il y a vraiment un problème. Et que les enseignants ne soient pas armés pour lutter contre ça, Jean-Michel Blanquer aborde aussi la question de la formation des professeurs en disant quelque chose qui me paraît assez intelligent, en disant il faudrait qu'à l'avenir, les gens qui forment les professeurs soient eux-mêmes professeurs, aient une expérience de terrain et qui, si possible, aient vécu des situations un peu compliquées comme ça pour donner les clés aux futurs enseignants de la façon dont on tient une classe, ça en dit long quand même sur l'état de notre système scolaire.
Moi, j'ai le sentiment que le lycée dont vous parlez, ou le collège dont vous parlez, ce sont les collèges dans notre proximité. Mais vous avez aujourd'hui une montée, il faut dire, employer les mots tout simples et clairs, d'antisémitisme dans un très grand nombre d'établissements qui devient affolant pour les professeurs eux-mêmes. Pas seulement la Terre qui tourne autour du Soleil ou inversement. On est sur des choses extrêmement sévères. Alors, j'en reviens maintenant.
Est-ce que ça peut être une chose, une unité laïcité, justement, que ces professeurs appellent quelqu'un
Qu'ils appellent au secours, les professeurs en question. Au secours. Il y a une chose qui est également bien vue par Jean-Michel Blanquer, c'est le fait de ne pas installer directement et toujours des tous jeunes enseignants dans ces zones si compliquées, mais d'y envoyer des professeurs chevronnés. Chevronnés, c'est-à-dire qui ont de l'âge, qui ont de l'autorité et qui ont des arguments. Parce que autrement, c'est la classe qui est la maîtresse. Et la classe en question, sur des voies dangereuses.
C'est au-delà de ça. Il ne faut pas en demander trop à l'école. Je pense que l'école, c'est un lieu où on apprend des choses. Effectivement, on va remettre en question la vision du monde. Hein. Et c'est la rue. Et c'est la rue, justement. Alors, ça va avec la police de proximité. Ça va aller avec...
On va en parler après.
Voilà, donc on fera la transition. Mais quand vous avez un enfant qui est scolarisé dans l'école publique et qui est athée, enfin, élevé par un père athée, excusez-moi, lui, il va arriver un soir, il va dire, on est quand même quoi, papa, on est plutôt catholique de tradition. La cour de récré, c'est des petites mafias comme ça qui se regroupent en fonction de...
C'est chez nous, c'est simplement
le communautarisme, ça commence dès le primaire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pas en demander trop à l'école. C'est la façon dont les enfants, dont les humains en fait font société, et c'est pas l'école, c'est tout un ensemble.
Dans un instant, on va parler de la visite d'Emmanuel Macron dans les quartiers sensibles, et puis on parlera un petit peu de politique et d'Europe. Vous allez voir, il y a bientôt une élection européenne. Enfin bon, on a le temps, c'est quand même dans un an et demi. Voilà le programme à suivre des informés de France Info.
Mercedes-Benz.
Et pour ta nouvelle voiture de fonction, Chloé, tu en es où?
Je serais assez tentée par un...
Un SUV compact, vous voulez dire? Ça tombe bien, Mercedes-Benz vient de présenter son nouveau GLA. Un SUV haut de gamme, pensé pour la ville. Et il est disponible en version Business Edition. Caméra de recul, GPS avec infotrafic, climatisation automatique, pack style. En résumé, un SUV compact tout équipé. Chloé, vous ne pouvez pas passer à côté.
GLA.
Eh non, vous ne pouviez pas.
Plus d'informations sur mercedes-benz.fr.
Si je te dis porte blindée, tu me réponds?
Point fort fichet. Ma sœur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage.
Et du 14 au 25 novembre, la porte blindée Sphéris 3 étoiles est au prix de la 2 étoiles. Et point fort fichet offre d'autres remises jusqu'à 600 euros.
Je fonce.
Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Voir conditions en magasin et sur fichet-point-fort.com.
France Info Météo, avec le compte CIC Mobile. Un compte, une carte, un forfait mobile et surtout 8000 conseillers. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Beaucoup de grisailles demain entre le Massif central, le Lyonnais, le Nord-Est. Le réveil sera gris, des nuages bas, des brouillards. Ils laisseront passer des éclaircies l'après-midi. Entre le sud de la Bretagne, la Sologne, le sud-ouest et de la Méditerranée aux Alpes, ce sera ensoleillé. On aura encore du vent fort dans le sud-est, du vent aussi en Corse avec des averses. On trouvera des éclaircies entre la Manche, la région parisienne, le nord de la Seine, mais ça se couvrira au fil des heures. On aura même quelques pluies sur le Pas-de-Calais l'après-midi. Il fera souvent moins 2 à 4 degrés le matin, plus en Méditerranée, 4 à 7. L'après-midi, un peu comme aujourd'hui, 6 à 9 degrés dans l'est et dans le massif central, 10 à 12 degrés ailleurs et jusqu'à 17 en Méditerranée.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Marc Potvin, bonsoir.
Bonsoir. Emmanuel Macron poursuit sa tournée en banlieue. Ce soir, le président est dans l'agglomération lilloise. Il participe à un dîner autour des discriminations. Demain, il doit annoncer des initiatives pour les quartiers. Le début de cette tournée, c'était à Clichy-sous-Bois, en région parisienne, tout à l'heure. Le chef de l'État s'est rendu dans le quartier du Chêne Pointu et il était très attendu, Louise Baudet.
Un accueil chaleureux à défaut d'être inédit. Entre les petits collectifs flambant neufs du quartier du Plateau, les enfants scandent le nom du président. L'ambiance est excellente. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron a improvisé une première étape entre les tours lugubres du Chêne Pointu. Le maire Olivier Klein fait office de guide.
Ouais, mes parents ont acheté là en 65-66 sur plan. On leur avait promis un métro et une autoroute. Et il n'y a ni le métro ni l'autoroute 50 ans après.
Ici, les attentes sont immenses.
Tu fais des tours dans les tours des bâtiments, tu trouves des bordels partout. On n'a plus d'ascenseur, rien qui fonctionne.
Et la venue du président est appréciée.
Lui, il s'est arrêté, il nous a écouté. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un pas déjà.
Emmanuel Macron, très attendu sur la future ligne 16 du métro qui était menacée.
Sur le métro, on va tenir le délai, parce que c'est vrai que là, dire qu'on finit tout en 2030, c'est trop long.
Oui, et même ça nous rassure de vous entendre dire ça ici.
Le président évoque aussi son dispositif emploi franc de soutien à l'embauche des habitants des quartiers.
Ça a été voté, je le confirme, on le fera dans une quinzaine de quartiers dès le 1er janvier prochain. Pour ceux qui ont un CDD de plus de 2 ans ou un CDI, il y aura une aide substantielle à l'employeur, donc ça va être un booster formidable pour leur emploi, parce que moi je crois que c'est comme ça qu'ils s'en sortiront.
Mais il n'y aura pas plus d'annonces ce soir. Aujourd'hui, c'était l'image, le son, ce sera pour demain dans les Hauts-de-France. À Clichy-sous-Bois, Louise Baudet, France Info.
Avant de se rendre à Clichy-sous-Bois, le président était à Saint-Denis et Paris. Il a salué la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. C'était il y a pile 2 ans. Le chef de l'État s'est rendu sur les 6 lieux visés par les terroristes du Stade de France au Bataclan. Un non-lieu rendu dans le dossier du crash de Charm el-Cheikh en Égypte. Il a causé la mort de 148 personnes, dont 134 Français en 2004. Le juge chargé de l'enquête à Bobigny estime qu'elle ne permet pas de retenir d'autres hypothèses que des fautes de l'équipe de pilotage. Elle n'a pas survécu. Les avocats des familles des victimes annoncent aujourd'hui qu'ils ont fait appel. Est-ce une conséquence de l'affaire Harvey Weinstein? Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de 30% le mois dernier. Mois où le scandale a éclaté, ces plaintes concernent des faits de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol. Et puis dans une demi-heure, Rafael Nadal fait son entrée au Masters de Londres. Le tennisman espagnol affronte à 21h le Belge David Goffin. Cet après-midi, l'Australien Dominic Thiem s'est imposé en 2-7 face au Bulgare Grigor Dimitrov. 20h33 sur France Info. Suite et fin des informés, Jean-Mathieu Pernin accompagné de ses invités.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils aiment cueillir des edelweiss au sommet de la montagne, de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent le journaliste européen Alexis Poulain, également Caroline Fiat, députée de la France Insoumise de Meurthe et Moselle, Stéphane Vernet de Ouest-France et également François Orcival de Valeurs Actuelles. Juste une chose, Caroline Fiat, je vais vous poser la question par rapport à Raquel Garrido. Juste une chose, elle a décidé d'arrêter la politique ce week-end pour se consacrer à son activité aujourd'hui télévisuelle. Comment vous le vivez, vous, au sein justement de la France Insoumise?
Bah, c'est un très bon choix, surtout que c'est pour donner du temps de parole supplémentaire, parce que quand Raquel est sur l'émission d'Ardisson, elle ne fait pas que parler France Insoumise, donc ça nous rajoute. Après, voilà, c'est pas parce qu'elle arrête la politique par rapport à ça qu'elle arrête ses idées et son militantisme. Hein, donc, elle ne quitte pas pour des idées différentes de nous. Hein, voilà, donc c'est son choix. Et
ça a pu être un moment, au bout d'un moment dans cette rentrée. Un petit malaise au sein de la France Insoumise, les prises de parti, de t'entendre Raquel Garrido, les différentes choses qu'il y a pu y avoir avec elle, ce qu'elle a pu dire à la télévision, choses comme ça.
Ah non, on est tous vent debout derrière elle. Non, il n'y a aucun souci chez nous avec Raquel. Au contraire, on l'apprécie beaucoup.
Très bien. Bon, bah écoutez, c'est noté. En tout cas, voilà, au moins, on a l'avis de la base d'une députée. En tout cas, France Insoumise. Bon, là, on voit en tout cas que nous ne sommes toujours pas sortis de la crise. C'est dans l'expression utilisée pour vanter désormais l'ascension sociale. Auparavant, on parlait d'ascenseur social. Vous vous en souvenez, mais celui-ci est en panne. Hein. Bon, donc, maintenant, on ne parle plus d'ascenseur, mais de cordée. Alors, pour les plus précaires, on peut dire que la cordée était filochée. Voilà. Hein. C'est justement vers ceux qui ne pratiquent pas l'alpinisme social qu'Emmanuel Macron s'est tourné aujourd'hui. Demain, il sera donc à Tourcoing et à Roubaix. Mais juste avant, il a fait un détour en Seine-Saint-Denis par Clichy-sous-Bois. Plusieurs annonces attendues et une manière de tester sa politique sociale quelques semaines après la suppression de l'ISF et cette fameuse étiquette du président des riches qui ne part décidément pas au lavage. François Orcival, ce sont des déplacements finalement politiques?
Ah, mais tout déplacement du président de la République est naturellement politique. Politique, bien sûr. Alors, il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire, on m'a collé l'étiquette de président des riches, je vais naturellement partout, et évidemment en banlieue. Mais en banlieue, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord des villes.
Et pas qu'en banlieue, hein, il y aura également...
On voit bien, Tourcoing, Roubaix, etc., sont les cités,
les cités radieuses, et celles qui le sont un peu
moins. Bon. Là, il y a déjà une première sélection à faire parce qu'ils ont décidé de choisir un certain nombre de villes tests pour mettre en place la politique de police de sécurité. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point. On ne peut pas admettre que ces villes-là soient perpétuellement des villes où vous ayez plus de 25%, 30% de gamins qui sont systématiquement au chômage. Donc, ça, c'est pas nouveau, rien de tout ça n'est nouveau.
C'est ce qu'on appelle les emplois francs, par exemple, là, ce qu'il veut mettre en place.
Les emplois francs, ça veut dire les zones franches d'autrefois, c'est-à-dire, effectivement, défiscaliser un certain nombre d'emplois dans ces villes pour voir si ça marche.
Alors justement, Caroline Fiat, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors il va y avoir des mesures donc, qui vont être annoncées, donc les emplois francs, donc je rappelle, donc ces primes pour l'entreprise qui embauche en CDI un jeune issu des quartiers prioritaires, mise en place de testing, retour aussi de services publics. Pour vous, Emmanuel Macron, se fait plus social?
Moi, j'attends de voir. Ouais. Pour le moment, les effets d'annonce, on en a toujours plein. Hein. Mais après, quand il s'agit de mettre en place, on se rappelle la taxe d'habitation. On va l'arrêter, puis ça vous fera de faire des économies. Puis après, tout de suite, il y a eu un recul. Attendez, peut-être qu'on peut pas. Donc maintenant, les effets d'annonce, j'attends et je veux voir. Après, les emplois francs, pourquoi pas. Mais donnons les moyens à ces jeunes en difficulté de pouvoir accéder à ces emplois. C'est pas en disant à l'employeur, si tu l'embauches... je te fais t'auras une prime, que ça va permettre aux gamins d'avoir une belle et bonne éducation à l'école avec les mêmes moyens que tout le monde. Tout à l'heure, on parlait d'école privée, oui, où ça manquait. Non, l'école est gratuite, laïque et obligatoire. Et tous les enfants en France devraient avoir accès à la même éducation. Mmh. Et c'est peut-être là, à partir de là, qu'il faut reprendre.
Quel succès!
Eh bien, oui,
c'est ce qu'on fait depuis 50 ans, la même éducation pour tout le monde.
Donnons les moyens.
Et vous en avez 150 000 parents.
Les enseignants sont des personnes formidables qui n'ont qu'une envie, c'est donner l'envie et l'éducation aux enfants, mais pas d'accord. Avec 30 gamins dans la classe.
Alors Alexis Poulain, justement, ces déplacements, on voit que c'est assez stratégique. Donc pour Clichy-sous-Bois, c'est une ville donc qui a bénéficié du plus ambitieux programme de rénovation urbaine jamais réalisé. On se souvient après les émeutes de 2005, Tourcoing, Roubaix aussi, des villes frappées. C'est important aujourd'hui pour Emmanuel Macron d'aller justement sur ce terrain.
Bah oui, c'est la logique d'En Marche avec la grande consultation. C'est ce qu'on appelle la France de la périphérie. On dit plus les banlieues, on dit plus. C'est la France qui est coupée du transport, coupée de l'accès à l'emploi, coupée effectivement de l'éducation de qualité. C'est la France qui perd. C'est celle qui a même pas accès à la cordée. C'est-à-dire, c'est même pas le Sherpa qui va faire monter la cordée. Donc c'est éminemment politique de dire cette France de la périphérie, si on ne fait rien, elle va devenir davantage populiste, elle va devenir davantage radicale, et on pourra plus rien en faire. C'est-à-dire que ce sera une France extrême coupée. Il y a des réalités aujourd'hui.
Et pourtant, penser de temps en temps qu'Emmanuel Macron pouvait un peu l'avoir oublié. C'est-à-dire, même s'il a fait son annonce de candidature à Bobigny, il a joué au foot à Sarcelles avant le second tour. Mais
il n'a pas oublié. Dans la logique et du mouvement En Marche, au contraire, cette France des périphéries, elle est centrale au programme de dire justement, il faut redonner cet élan-là, d'où les emplois francs, d'où l'idée de dire, il faut que ces énergies-là servent à quelque chose et qu'elles ne soient pas oubliées et qu'on en fasse rien. Alors après, fois, il y a les paroles et les actes.
Caroline Fiat, vous vouliez rajouter? Non, je voyais vous énerver quand je disais.
Mais Macron disais, voilà, qui jouait au foot avec ses chaussures vernies. Non, mais la politique spectacle, les gens, ils n'en veulent plus. Et c'est pour ça qu'ils avaient voulu autre chose, d'ailleurs. Oui. Et quand on voit que le président, là, se fait un Paris-Lille en avion, alors que ça a une heure de train, je ne suis pas sûre qu'ils connaissent bien les réalités de la vie des gens qui prennent le train avec les gens qui habitent où ils se rendent.
Mmh. Alors, Stéphane Bernet, pour vous, il y a quand même une chose concrète, là, véritablement, qui lui a été reprochée, notamment par Martine Aubry, parce qu'il va venir donc dans la métropole lilloise, c'est forcément la baisse d'emplois aidés, parce que c'est là où il y a énormément d'associations, et c'est là où c'est celle qui souffre le plus.
Oui, alors avec les emplois francs, c'est une façon de compenser peut-être, je sais pas, mais si je peux me permettre, on a dit beaucoup d'Emmanuel Macron qu'il était le président des riches. Avant qu'il soit le président des riches, c'était surtout le président des grandes villes et de la France qui gagne, et des gagnants de la mondialisation. Il se trouve que effectivement les banlieues, c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas de gagnants de la mondialisation, et je pense que son déplacement ou son sursaut 6 mois après son élection, il est lié aussi à ce qui se passe vis-à-vis de la fronde des milieux ruraux, des écoles, ce que vous appelez la France périphérique, et c'est Christophe Guilly, le géographe, qui a théorisé la France périphérique. C'est très intéressant. C'est lui qui parlait d'un candidat des gagnants de la mondialisation. Mais il disait autre chose sur les banlieues qui, moi, me paraît très intéressant. Il disait les banlieues, en fait, c'est un sas. Ce sont pas des territoires en déshérence. Alors, ce sont des territoires dans lesquels les gens tournent. Il dit sinon, s'il y avait que des gens, s'il ne se passait rien dans les banlieues, en fait, ou si la population n'évoluait pas, c'est pas des jeunes et casquettes qu'on trouverait dans les cages d'escalier, c'est des vieux qui tapent le carton. Le problème des banlieues, c'est que les gens, dès qu'ils peuvent s'en aller, s'en vont.
Oui.
Et elles s'appauvrissent constamment. Alors, et personne ne sait comment prendre le problème.
On
et
va justement poser
pas différent de ce qui se faisait avant.
Parce que figurez-vous que nous sommes en retard. L'info à 20h41, nouvelle horaire. Julie Smul.
Et le coup d'envoi dans moins de 5 minutes du coup pour Italie-Suède. Un match de foot et une énorme pression pour les Italiens. Ils jouent leur place pour la Coupe du Monde 2018. Ils doivent absolument gagner avec 2 buts d'écart. Les Italiens n'ont pas manqué un seul mondial depuis 1958. Silence et recueillement aujourd'hui à Paris et à Saint-Denis. 2 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015. Hommage rendu aux 130 morts et aux centaines de blessés en présence du président Macron, de François Hollande et de plusieurs ministres. Pas de discours à la demande des familles, mais la liste des victimes lue à voix haute et un lâcher de ballon. La justice demande un non-lieu dans l'affaire du crash de Sharm el-Cheikh en Égypte, un Boeing 737 qui s'écrase en mer en janvier 2004, 3 minutes après le décollage. 148 morts, dont 134 Français. Les avocats des familles de victimes annoncent aujourd'hui qu'elles font appel. Un rassemblement demain soir à Paris à l'appel du collectif Oser le féminisme. Manifestation pour dénoncer l'acquittement d'un homme soupçonné d'avoir violé une enfant de 11 ans en 2009. Le collectif veut que la loi change. On présume aujourd'hui qu'une enfant peut consentir à 11 ans. C'est dans la loi et c'est pourquoi la loi doit changer. Fin de citation. Et puis des tribunaux à l'arrêt aujourd'hui à Pau, à Béziers, à Montpellier ou encore à Nîmes. Grève des avocats pour protester contre la disparition annoncée de plusieurs cours d'appel, conséquence d'après eux de la réforme de la carte judiciaire.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Emmanuel Macron est en promenade. Il était à Clichy-sous-Bois cet après-midi. Il sera demain dans la métropole lilloise, notamment à Tourcoing et également à Roubaix. Alors cette année, Alexis Poulain, on célèbre symboliquement les 40 ans de la politique de la ville. Le bilan, il est quand même très mitigé. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est assez intéressante, j'ai regardé tout à l'heure, c'est un ministère, en fait, on ne sait pas quoi on fait, en fait. C'est-à-dire, on l'a associé depuis 40 ans à tous les ministères possibles, même à la jeunesse et au sport. Voilà, il y a eu très peu de fois, là, et d'ailleurs, il n'y en a pas, là, cette fois-ci, il est associé à la cohésion des territoires. Ça provient quand même le malaise qu'il y a, non, par rapport à la politique de la ville, en général.
On ne sait pas quoi faire, oui. C'est soit on fait du béton, soit on fait de la sécurité, soit on fait de l'investissement. Mais c'est tellement complexe, la politique de la ville, que est-ce qu'un ministère, c'est l'échelon qu'il faut? En fait, non, c'est la ville qui doit gérer. Il faut pour cela donner des moyens aux villes. C'est pas ce que va faire la politique du gouvernement. On va enlever des moyens aux villes. On va enlever des contrats aidés. On va faire l'inverse de ce qui pourrait être la politique des ministères. En France, le problème, ce qu'on disait, c'est il est de l'accès à l'emploi, de la qualité de vie et du prix du logement, du coût du logement. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on arrive en fin de quinquennat, on fait des cadeaux. Ça avait été la tournée de Manuel Valls en 2016, en disant je fais un grand cadeau. Voilà, on va faire pour redonner justement du dynamisme à ces quartiers oubliés. Ça fait 40 ans qu'on les oublie. Ça fait 40 ans qu'on met des millions sur la table.
Des milliards,
bien sûr. C'est une politique inefficace, extrêmement coûteuse, non réfléchie, qui est une politique purement électoraliste, qui n'a jamais été dans le temps long, qui n'a jamais été pour faire en sorte que ces territoires-là soient indépendants et s'autogèrent.
François Orcival, sur ces 40 ans, justement, là.
Oui, ça fait 40 ans.
C'est à l'âge d'Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr, ça fait 40 ans. Écoutez, on a le souvenir d'un seul plan vraiment cohérent, c'est celui de Jean-Louis Borloo. Il a investi des milliards. À la sortie, ben, il y a un certain nombre de Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, il y a eu une politique de rénovation, il y a eu beaucoup de milliards. Est-ce que ça a changé l'ensemble du paysage périurbain? Réponse, non, vous venez de le dire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque investir de l'argent ne suffit pas. Donc, oui à la réflexion, oui aux travaux d'approche, etc., à tout ce qu'on veut, mais pour le moment, on a quand même tout fait depuis 40 ans.
François, en même temps, on a tout essayé. On entendait tout à l'heure dans le journal tout à l'heure un habitant de Clichy-sous-Bois qui disait « ça fait 40 ans que j'attends le métro
eh ». Ben
ça
oui.
veut dire qu'il y a un moment, ce sont des villes aussi enclavées. Donc comment
alors,
c'est pas
peut-être que le Grand Paris va résoudre une partie de ces questions-là, mais effectivement, il y a quand même, en éducation, en urbanisme, en violence et en délinquance, il y a le nombre de sujets infini.
T'as fini d'ailleurs, Stéphane Vermet.
Mais encore une fois, ce ne sont pas des territoires qui ont toujours été au banc de la société ou qui n'ont pas toujours été pauvres. C'est ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'on met énormément d'argent pour les aider à se désenclaver, à se développer, etc. Mais encore une fois, cette histoire, cette notion de sas que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que les gens commencent à voir leur situation qui s'améliore un peu, ils quittent ces territoires-là pour aller ailleurs. Et à chaque fois, Le problème, c'est qu'ils sont remplacés par des gens encore plus pauvres, encore plus précarisés. Et on a, en fait, on a un système qui est tiré vers le bas. Or, il y a dans ces zones compliquées ou très difficiles à vivre aujourd'hui, des gens qui ont beaucoup de talent. Alors, le discours, et c'est un discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de faire émerger ces talents, c'est de donner les moyens à ces jeunes-là de se prendre en main, etc. Sauf que ben ça se décrète pas, c'est pas ça se fait pas sur un claquement de doigts, c'est pas aussi facile à faire. On n'a pas de levier.
Caroline Fiat.
Oui, non, mais après, enfin voilà, il faut pas non plus toujours se faire une caricature de ces quartiers populaires.
Je suis d'accord.
Vous y trouvez beaucoup de jeunes qui ont envie.
D'accord.
Pendant ma campagne, on est tombé sur des jeunes en bas d'un immeuble avec qui on allait discuter. Et je vous jure, et c'est peut-être pour ça que je suis passée au second tour. Ils ont fait du tractage, mais parce que ils m'ont dit on peut vous aider. Je leur ai fait confiance. Et rien que ça, leur faire confiance, ils ont eu envie, ils ont pris des tracts et ils ont posté. Après, entendre que on a tout fait pour eux, mais on fait quoi alors? On a tout
non,
fait pour
ont,
eux, on a tout essayé, on les laisse mourir tout seuls.
Non,
mais non,
pas du tout.
Il faut
les
travailler, il faut s'inquiéter, mais il faut
c'est
bien
tout,
compenser
tout,
que
tous les jeunes d'il y a 40 ans, aujourd'hui, précisément, ils ont 60 ans, vous comprenez? Donc,
non, mais ce qu'il faut bien penser, c'est que dans tout ce qu'on appelle les quartiers populaires, allez voir les associations, allez voir, ce sont des jeunes qui ont envie vraiment de s'en sortir. Il y a quelques, comme partout, il y a toujours des personnes qui n'ont pas envie.
Donc
c'est très
sujet.
Rare, mais c'est très très rare. Mais il faut leur donner des moyens, des vrais moyens, et les impliquer.
Les vrais moyens, c'est de l'emploi.
On va parler un peu de politique maintenant, parce que mine de rien, dans un an et 6 mois, c'est les élections européennes. Autant dire demain, oh là là, on va encore avoir des sondages, oh là là, on va encore avoir des candidats bizarres, oh là là, à peine le temps de souffler et... Bon oui, c'est vrai qu'on adore les élections, on est en manque, et voilà. Hein. Mais c'est pas notre faute, c'est le personnel politique qui joue aussi avec nos accoutumances. Ce week-end, dans le journal Sud-Ouest, Alain Juppé a appelé à la création d'un grand mouvement central en précisant « la question est de savoir qui prendra le leadership ». Mais si Macron reste dans la ligne de son discours à la Sorbonne, je ne vois pas d'incompatibilité. Oh là là, emballement médiatique, notamment du Figaro, nouveau couple politique en vue, wouh, sexy, et Juppé et Macron, ils sont ensemble. Et puis Alain Juppé, bon, finalement, se fond d'un tweet quelques minutes plus tard, liste commune avec Emmanuel Macron aux européennes, on n'en est pas là, quoi que me prête le Figaro. Fausse nouvelle, une fois de plus. Mais trop tard, le favori à la présidence des Républicains est fort contrit, Laurent Wauquiez.
Je pense que cette proposition est une erreur. Pourquoi? Parce que nous ne partageons pas la même vision de l'Europe qu'Emmanuel Macron. Je comprends que vous jouiez un peu ce jeu des petites phrases, des montagnes qui s'affrontent, et c'est normal, c'est votre rôle. Moi, mon rôle, c'est de rassembler et de faire comprendre qu'il y a une voie à droite et que cette voie à droite républicaine peut être une alternative. Et mon souhait, c'est qu'évidemment, Alain Juppé soit avec nous,
Renaud,
parce que c'est une référence chez nous.
Voilà Laurent Wauquiez hier sur François, qui est donc une montagne. Hein, François Versival, deux montagnes, Alain Juppé et Laurent Wauquiez. Là, c'est la ligne de fracture qu'on trouve véritablement
sur
aujourd'hui.
L'Europe.
Ouais, sur l'Europe, véritablement.
Mais je vais vous dire, les lignes de fracture, c'est à peu près toutes les semaines pour Wauquiez, mais elles changent. C'est-à-dire que la semaine dernière, on lui reprochait toute alliance sur sa droite avec Marion Maréchal-Le Pen. Maintenant, c'est sur sa gauche ou vers le centre avec Alain Juppé. Bon, nous sommes en campagne pour la présidence des Républicains. Et évidemment, tout est bon. Tout est bon. Il y a quand même des points fixes. Le point fixe, c'est qu'il ne faut pas s'étonner des propos d'Alain Juppé. Enfin, son principal ami politique, il est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est quand même un point Edouard essentiel Philippe, ouais. dans le paysage, quand même, Édouard Philippe. Bon, alors il ne faut pas s'étonner qu'Alain Juppé soit proche d'Emmanuel Macron. Maintenant, pour le reste, c'est la présidence des Républicains qui est en jeu.
On va continuer à parler d'Europe dans un instant. L'info à 20h50, Julie Simule.
Une minute de silence devant chaque lieu touché par les attentats de Paris et de Saint-Denis. Journée de commémoration et d'hommage aux 130 victimes. 2 ans après ces attaques, 2600 personnes ont été indemnisées par le Fonds de solidarité. Un chiffre dévoilé ce soir sur France Info par Elisabeth Pelzet, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Le centre-ville de Lyon paralysé cet après-midi à cause d'une opération de déminage. Une voiture suspecte contenant des bouteilles de gaz signalée à la police dans le 2e arrondissement. Rien de dangereux finalement après inspection des forces de l'ordre, le trafic a pu reprendre tout à l'heure vers 19h. Le président Macron en tournée dans les banlieues, d'abord Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, puis le Nord, Tourcoing et Roubaix, ce soir et demain. Le président venu annoncer plusieurs mesures en faveur des habitants de ces quartiers dits populaires. Les secours toujours mobilisés pour trouver des survivants dans les décombres en Iran et en Irak. Au moins 415 morts après ce séisme de magnitude 7,3 hier soir. Près de 7000 blessés, un tremblement de terre ressenti jusqu'en Turquie et en Israël. Votre impôt sera bien prélevé à la source sur votre salaire, mais dans un an, en janvier 2019, la mesure est décalée d'une année, annonce ce matin de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et puis du tennis et Raphaël Nadal face à David Goffin dans 10 minutes au Masters de Londres. Cet après-midi, le Bulgare Grigor Dimitrov a battu l'Autrichien Dominic Thiem en 3-7, 6-3, 5-7, 7-5.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle déjà des élections européennes. Alors ça sera en mai 2019, mais ce week-end, Alain Juppé semble avoir fait un petit rapprochement vers Emmanuel Macron pour peut-être éventuellement une liste commune. Alexis Poulain, comment vous voyez ça? On a l'impression que dans la tactique qui se profile de la part d'Emmanuel Macron, c'est en gros faire une liste de tout simplement pro-européens et laissant les autres, finalement, France Insoumise, le Parti Socialiste, non mais les Républicains, en disant, bah voilà, c'est pas notre Europe à nous, voilà, ils se débrouillent entre eux.
Oui, il fait une stratégie qu'on voit au niveau européen avec la HALDE. Il veut faire un centre énorme qui détient à peu près les clés de l'Europe depuis sa fondation. Donc c'est simple, il rentre dans les pas des pères fondateurs en disant on va faire simple, on continue. Sauf que les citoyens ont peut-être pas envie de continuer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. On a beaucoup de problèmes, celui des paradis fiscaux, celui de l'écologie, celui de l'économie, la zone euro, un futur incertain quand même. La crise des migrants qu'on veut pas gérer, ça fait des années qu'on va à des sommets européens, qu'on débloque un peu d'argent, mais on voit la souffrance qui continue d'arriver de l'autre rive de la Méditerranée. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, elle est lente, elle a besoin de réformes. Son grand discours de la Sorbonne était encore une fois des très bons mots et très bien pesés. Mais c'est de réformes profondes dont elle a besoin. Et faire un grand centre pour gagner les élections européennes, pour remettre un nouveau Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, je ne pense pas que ce soit la révolution qui est en tête Emmanuel Macron. Ou alors, ce n'est vraiment pas une révolution.
Oui, Caroline Fiat, comment vous voyez ça justement, Emmanuel Macron a mis l'Europe au cœur de son discours. Est-ce que voilà, cette position de dire « moi je prends tous les Européens avec moi, les vrais » entre guillemets dans son image, et puis les autres de côté, c'est-à-dire vous?
Oui, alors, non mais c'est ce que tout à l'heure vous avez dit, Juppé va avec les pro-européens, ouais. On prend les pro-européens, ouais, parce que sous-entendu, la France insoumise est anti-Europe.
Non mais dans l'idée d'Emmanuel Macron, oui,
non,
justement.
Pour rappel, parce qu'on nous le met souvent sur le dos, nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous voulons une Europe, parce que cette Europe, on y tient, mais une Europe différente et dirigée différemment. Et il faut bien faire la différence. Et donc, nous aussi, on est des pro-européens avec nos idées à nous. Voilà, on dit que le gouvernement Macron, c'est un gouvernement de droite, donc que Juppé va y aller avec. Moi, je trouve ça, ça reste dans la logique du gouvernement actuel.
C'est ça. Stéphane Vernet, on a vu Emmanuel Macron parler énormément d'Europe, le mettre au cœur de son discours très régulièrement. Est-ce que c'est porteur finalement ça? Est-ce qu'on a vu que les élections européennes ne rassemblaient pas beaucoup d'électeurs?
Ouais, alors, c'est pas la question des élections européennes. En fait, ça a été la grande surprise de la présidentielle. C'est qu'il gagne alors qu'il avait un discours pro-européen.
Et que même l'Europe s'est invitée.
Alors que
même
pendant des années, tout le monde au niveau de la classe politique a considéré qu'il fallait taper sur Bruxelles, il fallait dire que l'Europe c'est mal, qu'il fallait pas la faire, etc. Lui, il a un discours qui prend tout le monde à contre-pied et il gagne. Bon. Donc, ça, c'est la surprise. Après, dans l'histoire qui nous occupe, je voudrais juste faire une précision. Donc, la France insoumise, est pas contre l'Europe, mais elle veut pas de drapeau européen à l'Assemblée. Bon, ça, c'est juste pour le clin d'œil.
Et ça n'a pas de rapport. Non, mais vous voyez, ça devient quand même un vrai cliché. Ça devient l'image.
Bon, c'est une réalité.
Donc,
je le
dis,
il y a eu un débat autour.
Et net, la France insoumise, nous ne sommes pas anti-européens.
Une autre Europe.
Jusque l'hémicycle, ça reste quand même l'Assemblée nationale. Et c'est un monument national. Et que notre question, c'était qu'est-ce que vient faire le drapeau européen dans cette assemblée, alors qu'il n'est pas écrit dans le règlement, alors qu'on nous embêtait sur d'autres choses qui ne sont pas non plus écrites dans le règlement.
Alors, juste une chose quand même, Alexis Poulain, ce qui est marrant, c'est que on dit toujours l'Europe, vous savez, dans les médias, ce qu'on dit, il faut pas parler d'Europe, ça marche pas, alors voilà, au niveau de l'audience. Bref, mais nous, on en parle souvent. L'Europe ne mobilise pas, et pourtant, on nous dit que la vraie facture politique en France, ça date du référendum de 2005. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que c'est sur l'Europe qu'on s'affronte, mais pourtant, faut pas trop en parler non plus, on a l'impression.
Les choses ont changé. Maintenant, il n'y a pas une nouvelle dans l'actualité qui n'a pas une dimension européenne. Enfin, tout...
C'est intégré, en fait.
Oui. Deux choses. La diminution du pouvoir des États-nations. Aujourd'hui, une nation peut très peu de choses seule. Donc le Brexit, c'est on voit très bien que les Anglais sont dans une panade noire, ils savent pas comment faire pour en sortir, mais seuls, ils s'en sortiront pas. L'Europe, ça permet justement aux nations de flotter sur un radeau, qu'un cas, et d'arriver à faire quelque chose ensemble. Donc le principe après de comment la construire, et je pense qu'il n'y a pas d'anti-européen, à part vraiment des ultranationalistes qui vont aller très loin, et il y a un courant ultranationaliste aujourd'hui en Europe, on a vu en Pologne les manifestations, il y a un mouvement identitaire de repli sur soi qui est partout, et qui est vraiment présent, et qu'on ne veut pas voir, mais qui est vraiment créé par cette Europe qui a été fondée depuis les années 50 et cette Europe libérale qui crée en son sein son propre antivirus.
Rapidement, François Orsilal.
Juste un mot de complément. Le discours de la Sorbonne,
quelle
est sa destination, quel est son public ? Le discours de la Sorbonne, il est destiné non pas aux élections futures européennes françaises, il est destiné à l'ensemble des pays européens. Emmanuel Macron bénéficie aujourd'hui d'un éclairage particulier. Là, le gouvernement allemand n'est toujours pas constitué. Lui, il est le plus jeune et aujourd'hui, finalement, il peut jouer son leadership européen.
Alors, il n'est plus vraiment le tout jeune, c'est le plus chancelier autrichien. Vous savez maintenant qu'il a battu.
Ça,
voilà,
c'est ça.
Juste. Merci beaucoup les informés de France Info. Ça doit se terminer. Merci beaucoup Caroline Fiat d'être passée ce soir. Merci Alexis Poulain, la une de Ouest France.
On a un reportage sur les classes dédoublées à Nantes.
Très bien.
Voilà.
Et François Simon.
Et les grandes arnaques.